RCF.
Benoît Hamon sera le candidat du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Hier, pour le deuxième tour de la primaire de la gauche, l'ancien ministre de l'Éducation a obtenu en Vendée 53,43% des voix, soit un peu plus de 1000 de plus que son concurrent Manuel Valls. Pour analyser ce résultat, je reçois le politologue Guillaume Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer à s'intéresser à l'échelon local, hein, dans le département. Au premier tour, Manuel Valls était en tête. Hier, c'est Benoît Hamon qui arrivait devant. Est-ce un désaveu pour les deux députés socialistes vendéens qui soutenaient l'ex-premier ministre ?
Oui, on peut considérer qu'effectivement, le résultat, je dirais, des reports de vote n'a pas été en Vendée ce qui était, envisageable. Et par conséquent, effectivement, on a une dichotomie, on le voit en Vendée, mais on le voit aussi, je dirais, au niveau national, une dichotomie entre les cadres, la direction du Parti socialiste et puis la base, les électeurs, en tout cas ceux qui se sont déplacés, parce que je pense qu'effectivement, il faut prendre cet élément-là en considération. Cette dichotomie, vous savez, entre une base qui est socialiste, qui se continue à se penser socialiste, et puis une direction et des cadres et des ministres et des dirigeants du Parti socialiste qui sont depuis les années 70 de plus en plus devenus sociaux-démocrates, eh bien cette distorsion, elle est présente, systématiquement, dans toutes les élections. Le Parti socialiste fait une campagne plutôt à gauche et puis ensuite gouverne, au centre-gauche. Et c'est sans doute cette distorsion-là, qui s'est traduite explicitement dans les urnes hier. C'est-à-dire que les électeurs qui se sont déplacés, parce qu'une grande partie ne s'est sans doute pas déplacée, il y a déjà basculé vers Emmanuel Macron, ceux qui se sont déplacés ont voulu choisir un candidat qui leur ressemble, un candidat qui s'affiche véritablement à gauche, et Emmanuel Valls est apparu comme étant le sortant, comme étant celui qui devait endosser la responsabilité du quinquennat de François Hollande, et ça lui a effectivement porté préjudice.
Alors comment Benoît Hamon va-t-il devoir s'y prendre pour rassembler, ce qu'on pense à un rassemblement avec peut-être d'autres familles politiques, mais déjà même au sein de sa propre famille politique ?
Eh bien écoutez, je crois que vous avez raison de mettre le doigt sur cet aspect-là, ça va être très compliqué. Et on l'a bien vu d'ailleurs dès hier soir, il a plutôt cherché à essayer de trouver des compromis avec la gauche de la gauche, beaucoup plus qu'avec la gauche social-démocrate ou social-libérale. Il y a des risques incontestablement d'implosion du Parti socialiste, et parmi ses électeurs, c'est très clair, ceux qui se sont déplacés ont fait le choix d'un candidat qui s'affiche à gauche et qui va de fait faire concurrence et donc affaiblir Jean-Luc Mélenchon. Et puis, effectivement, une autre partie de l'électorat et l'essentiel, des cadres du Parti socialiste qui, eux, ont fait le choix, d'une gauche modérée et donc d'une gauche qui est compatible, effectivement, avec les positions sociales libérales d'Emmanuel Macron. Il y a incontestablement un risque d'implosion du Parti socialiste dans cette affaire. Mais disons-le, la candidature d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, c'est du pain béni pour Emmanuel Macron parce que ça lui libère l'espace politique du centre-gauche. Emmanuel Macron qui, par ailleurs, mord sur le centre-droit, on le voit bien puisque il prend une partie de l'électorat de droite ou de l'électorat qui se considère comme étant de centre-droit et par conséquent, effectivement, Benoît Hamon va être sur les terres, si j'ose dire, idéologiques de Jean-Luc Mélenchon et donc ils vont se partager à eux deux peut-être environ 20% du corps électoral, ce qui veut dire que chacun d'entre eux sera aux alentours de 10%. Je n'ai pas de boule de cristal, il s'agit là d'une hypothèse, mais enfin, en tout cas, ils vont se partager environ 20% de l'électorat, et donc ils ne seront absolument pas un danger pour Emmanuel Macron pour le second tour, pour l'accession au second tour de la présidentielle.
Et aujourd'hui, alors quel avenir peut-on imaginer pour Manuel Valls ?
Ah, écoutez, ça c'est évidemment un peu compliqué. Il est apparu comme étant le sortant. Il a été le premier ministre de François Hollande et il est parti dans des conditions assez délicates puisqu'on a dit que c'était lui qui était directement responsable de l'impossibilité, je dirais, pour François Hollande de se représenter, ce qui est quand même une très grande nouveauté dans la Ve République. Un président sortant ne soit pas à nouveau candidat. Et donc c'est vrai qu'il est incontestablement affaibli. Et puis, eh bien, son créneau électoral, le social-libéralisme, les positions d'un Tony Blair, par exemple, si on veut faire une comparaison avec un pays étranger, eh bien, sont déjà occupés par Emmanuel Macron. Donc, par conséquent, son avenir est pour l'instant bouché. Cela dit, s'il y a une recomposition et s'il y a une réorganisation des différents courants politiques à gauche, il est possible qu'il y joue un rôle. Mais aujourd'hui, évidemment, dans la campagne pour la présidentielle, il est incontestablement marginalisé. On verra, en tout cas, si le PS, issu du congrès d'Épinay, là où François Mitterrand avait pris le pouvoir et avait réussi à hisser le PS au-dessus du Parti communiste, on va voir si ce Parti socialiste eh bien, continue à exister dans les mois et les années à venir. Mais il est possible, hein, comme nous l'avons dit, que ce Parti socialiste disparaisse.
Alors on va finir par un aspect local, on pense aux élections législatives, à Martine Chantecaille hein, qui menait le comité de soutien en Vendée à Benoît Hamon. Elle n'a pas été investie pour les élections législatives du côté des socialistes. Alors, il risque d'y avoir des traces aussi en Vendée à l'approche de ces élections.
Oui, alors, vous savez, tout dépendra évidemment des résultats de la présidentielle, parce que les investitures, elles sont faites, bien sûr, avant la présidentielle. On envisage évidemment des candidats, mais il peut y avoir des retournements de situation, et puis il peut y avoir aussi des candidats, je dirais, freelance, des candidats qui eh bien, émergent ou qui obtiennent d'autres étiquettes. On peut envisager qu'effectivement, il y ait une alliance d'une partie de la gauche du PS avec le Front de Gauche, pour essayer de faire une candidature commune. Donc, c'est vrai que la recomposition politique, elle peut se faire, notamment à l'occasion des élections législatives. N'oubliez pas que si jamais Emmanuel Macron est au second tour de la présidentielle et qu'il peut et qu'il l'emporte, parce que en l'occurrence les sondages aujourd'hui disent que c'est lui qui l'emporterait, y compris face à François Fillon, avec 58% contre 42% pour François Fillon, ce qui est évidemment assez large comme victoire, on peut penser qu'effectivement les différents partis politiques eh bien, seront dans une passe difficile et que les investitures pour la présidentielle seront, eux pour les législatives, seront entièrement rebattues parce que Emmanuel Macron aurait besoin d'une coalition droite-gauche pour pouvoir avoir une majorité présidentielle. Donc si vous voulez, je crois qu'on n'en est pas encore là. Il faut attendre le premier tour de la présidentielle pour voir si les investitures qui ont été données eh bien, seront ou non maintenues.
Guillaume Bernard, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin donc pour analyser ces résultats de la primaire de la gauche. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée,
à
au revoir.
À bientôt, au revoir.